premier sur l'info, l'info locale.
Il est 7h30, tout de suite, les titres de votre journal local, présenté par Wallis Guez. Bonjour Wallis.
Bonjour Arnaud et bonjour à tous. Il y a 54 ans, Aldébaran, le premier tir nucléaire, arrivé en Polynésie. Triste anniversaire, municipal à Rouet, pas de recours, mais des envies de troisième tour pour Tepanuisno. Le premier village du Turei ouvrira mercredi prochain.
Essai nucléaire, le droit des victimes est en train de reculer.
C'était le 2 juillet 1966, la France menait son premier essai nucléaire à Mururoa, nommé Aldébaran. La date est devenue au fil du temps une journée de commémoration et de mobilisation pour le mouvement de défense des victimes des essais. Hier matin, l'association 193 avait ainsi réuni une centaine de personnes avenue Pouvahana à Opa. Les banderoles ne laissent aucun doute, c'est l'amendement Tétouanoui qui réintroduit un seuil minimal d'exposition avec le critère du millisievert qui est en ligne de mire. Pour le Pierre Auguste, le problème est que beaucoup d'élus manquent de courage. Écoutez-le au micro de Caroline Perdry.
Ce que nous voyons cette année 2020, trois quarts des dossiers sont rejetés par le CIVEN au niveau de l'association 193. Et à chaque fois qu'il y a ces rejets, l'amendement Lana Tétouanoui est invoqué. Et donc c'est compliqué. Il faut supprimer cet amendement, tout simplement. Voilà pourquoi nous sommes ici, au milieu de ces deux autorités qui ont les clés de faire avancer ou de faire en sorte que l'histoire de ce pays reste encore au même niveau. Il faut que les élus locaux soient plus courageux. On a l'impression qu'ils ont plus peur de la réaction de l'État que d'autres choses.
Au siège de l'église protestante Maui, à Paofai, Mururoa et Tatou, réunissait au même moment une petite poignée de militants et de victimes. L'association, comme l'église à laquelle est liée, avait décidé depuis plusieurs semaines d'organiser des discussions. Il s'agirait désormais d'encourager des victimes du nucléaire à constituer des dossiers devant la Cour pénale internationale. Écoutez François Piatea, le président de l'église protestante Maui.
C'est ce que nous allons discuter, quelles seront les démarches et quelles sont les directives pour qu'on aboutisse à cette démarche. Il y avait déjà une au niveau des Nations Unies à New York. Et une deuxième à Genève. Maintenant, on est en train de voir comment on va faire une démarche pour aller à La Haye, des victimes de se présenter volontairement pour toute la Polynésie, ceux qui sont plus vaillants pour affronter Goliath.
D'après les militants, les victimes volontaires pour constituer un dossier sont difficiles à trouver, bien qu'elles abondonnent dans les rangs des associations. Le flou entoure les démarches à réaliser et les chances d'aboutir et l'accompagnement proposé n'aident probablement pas à trouver des volontaires.
À Rouet, pas de recours, mais des envies de troisième tour pour Tepanuisno.
Tepanuisno a été surpris hier par la charge de Philippe Schill contre Teura Yariti, surpris par la teneur de certains propos, mais pas par les soupçons d'irrégularité, entourant une centaine de procurations lors du second tour des municipales. Mais contrairement à ce que laissait entendre Philippe Schill, il n'a jamais été question pour les jaunes et rouges de déposer un recours en justice.
J'ai entendu les propos de M. Schill qui venait hier affirmer que la liste Yaura Aroué allait déposer un recours en annulation des opérations électorales. Or, si nous avons bien la semaine dernière déposé un courrier au commissaire, au procureur de la République et au commissaire Banner sur des anomalies que nous avons pu constater dans le cadre de nos visites de quartier, nous n'avions pas l'intention de déposer un recours. Regardez simplement la différence de voix entre la liste gagnante de Mme Iriti et la nôtre, enfin, je veux dire le recours que nous pouvons déposer. N'avait aucune chance d'aboutir. En revanche, effectivement, il était plus légitime de la part de M. Schill de le déposer.
L'élu convient de soupçons graves, mais donc garde ses distances avec les accusations de Philippe Schill. Alors que l'enquête de la DSP n'a rendu aucune conclusion, lui préfère laisser la justice faire son travail.
Je suis assez surpris des termes qu'il utilise aujourd'hui. Il me semble que l'enquête administrative n'est toujours pas terminée, close. Nous ne pourrons déterminer véritablement les responsabilités des uns et des autres que lorsque cette enquête arrivera à son terme. Nous avons effectivement relevé certaines anomalies qu'il nous paraissait important de dénoncer auprès des autorités. Moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que les deux recours qui vont être déposés par M. Schill, une part sur le volet électoral et d'autre part sur le volet pénal, viennent tout simplement trancher la gorge de Mme Iriti.
Le président de la Fédération des associations de parents d'élèves n'hésite pourtant pas à se projeter sur une décision de justice. Ainsi, si les fraudes aux procurations étaient avérées, le scrutin devrait être annulé.
Si les propos qu'il a tenus à l'encontre de Mme Iriti sont avérés, pour moi, la justice doit simplement demander l'annulation des opérations électorales, parce que ce sont des accusations extrêmement graves qui viendraient mettre en cause la responsabilité d'officier de police judiciaire. Ça vient remettre en cause la sincérité du fait par le biais d'une centaine de fois de procurations qui seraient portées et organisées de manière pas très, très, très légale. Ce serait normal qu'un troisième tour soit organisé, oui.
Des propos recueillis par Charlie René.
Flos Etemaru, l'historien Jean-Marc Regnault, publie deux livres jumeaux.
La Polynésie ne connaîtra sans doute plus d'hommes politiques comparables, ni du point de vue de la longévité, ni du point de vue de la conscience politique polynésienne. C'est pourquoi il était nécessaire de publier les deux ouvrages en même temps, dit Jean-Marc Regnault, qui retrace les parcours politiques des deux poids lourds de la politique polynésienne. L'auteur n'aurait pas pu rêver meilleure promotion pour ses livres que les déclarations de Gaston Flos sur le changement de cap du Tauera. L'historien rappelle que Gaston Flos avait déjà usé de la même méthode en 1980.
On se retrouve avec la même configuration qu'en 1980. Souvenez-vous, jusqu'en 1980, Gaston Flos est contre l'autonomie. Et brutalement, sans consulter pratiquement personne, Gaston Flos annonce, nous réclamons une autonomie plus poussée que celle qui a été accordée à Sanford et à Théric. Les cadres du parti sont stupéfaits, protestent dans un premier temps, et puis ils s'alignent. Et là, ils rééditent le coup, on va changer de cap, et on passe à la demande d'indépendance. Alors, il la tempère légèrement en disant l'indépendance comme État souverain associé à la France, qui continue à le distinguer un petit peu du Tavigny. Tandis que Gaston Flos, malgré tout, il est obligé de tenir compte de son électorat.
Et Jean-Marc Regnault explique justement ce changement de cap dans le livre. Écoutez-le.
Le problème, c'est que le pays associé, ça n'existe pas. Juridiquement, ça n'existe pas. Et que, en plus, ça n'est pas porteur. C'est ce que j'explique dans le livre. J'ai dit, voilà, le Tauera ne pourra pas survivre à la disparition de son fondateur avec, comme signe distinctif, le pays associé. Parce que ça n'est pas porteur du tout entre l'autonomie et l'indépendance. Donc, sans doute que Gaston Flos a intégré ça avant même que je ne l'ai publié.
Je rappelle donc les titres des deux ouvrages, Gaston Flos, Un Chirac des Tropiques et Oscar Temaru, L'Océanie au cœur. Les deux livres seront disponibles le lundi 6 juillet.
Il tente un braquage à main armée pour un paquet de tabac.
Un homme de 31 ans a été jugé hier en comparution immédiate pour des faits de vol à main armée. Le 25 mai dernier, il avait menacé la caissière d'une station-service de Fa à l'aide d'un couteau car il n'avait pas assez d'argent pour s'acheter un paquet de tabac. Pour le procureur de la République, qui a requis 2 ans de prison, dont un avec sursis, il s'agissait de juger un braquage consternant. Après en avoir délibéré, le tribunal a condamné l'intéressé à 2 ans de prison, dont 18 mois de sursis probatoire. Il devra se faire soigner et aura l'interdiction de retourner à la station-service.
Le premier village du Tureï ouvrira mercredi prochain.
Suite à l'annulation du Heiva, le service de l'artisanat et la maison de la culture organisent la première édition du village du Tureï aux mêmes dates que le 26e Heiva des écoles. 5 ateliers thématiques seront proposés chaque jour par les artisans. Les participants seront invités à s'inscrire en ligne au plus tard la veille de l'atelier via la page Facebook de l'événement Village de Tureï ou sur place le jour même sous réserve de places disponibles. L'événement se déroule donc du mercredi 8 au samedi 11 juillet. Du mercredi 15 au samedi 18 juillet de 10h à 18h dans les jardins de la Maison de la Culture. Voilà, s'achève ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi.